Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles, Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage, pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changés. Venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons. Colombie, troisième partie. Comme on est arrivé de nuit, c'est que le lendemain matin, quand on se réveille, qu'on a la chance de voir où on est. Et le jardin, il est vraiment extraordinaire. Il y a plein de plantes, de fleurs, de beaux arbres. Et il y a également des oiseaux, mais partout. Et ça, Ariadna nous en a parlé la veille. On les entend, ils chantent en tous les sens. Il y a des petites mangeoires où elle leur met des fruits le matin. Et donc, on s'assied de notre petite terrasse à l'étage pour les observer, et c'est magnifique. Il y a des oiseaux de toutes les couleurs, de toutes les tailles. On voit beaucoup de colibris. On voit les morphos aussi, ces fameux papillons bleus très grands qui sont emblématiques du Costa Rica et qu'on retrouve ici en Colombie. Et puis elle a également deux chats qui sont assez affectueux et qui cohabitent très bien avec cette colonie d'oiseaux. Ariadna vit au rez-de-chaussée de la maison, où il y a également la cuisine que l'on partage avec elle, et nous on a tout l'étage de la maison. Avant le Covid, elle louait cette maison chambre par chambre, comme une maison d'hôte, et puis post-Covid, elle a arrêté, et maintenant elle loue la maison dans son intégralité à des gens comme nous qui voyagent. On est donc tout seul dans ce grand espace, les filles ont de la place chacune dans leur chambre pour se reposer, et puis avoir un petit peu d'intimité, c'est quelque chose à laquelle elles sont à la recherche également. Et Ariadna, on sympathise bien avec elle, elle est artiste, elle nous montre son atelier où elle fait pas mal de poterie, elle crée beaucoup de choses de ses mains, et elle a une passion pour la peinture, en particulier la peinture sur galets, et ça fascine les enfants, parce que nos filles sont parties en voyage avec toute une trousse de feutres Posca, qui sont des feutres peinture, et qu'elles ont utilisé pour dessiner sur tout un tas de surfaces trouvées dans la nature, des bouts de bois, des morceaux de cailloux, d'écorce. Et là, elles sont face à Ariadna, qui a une palette de peinture incroyable, et donc Ariadna leur propose même de faire un atelier de peinture pendant notre séjour. June ne participe pas à l'atelier créatif, ça lui fait pas envie, mais Swan et Violette, elles passent une après-midi entière avec Ariadna à peindre sur des cailloux et elle leur montre toute une technique qui s'appelle le pointillisme, donc avec des tout petits points. Et les filles passent vraiment un super moment. Et Ariadna aussi, on sent qu'elle est très heureuse et on apprend à la connaître au fil des conversations. Ariadna a une soixantaine d'années, sa résidence principale est à Medellín et en fait ici c'est sa résidence secondaire. Et elle travaille à l'université en la planification des formations. C'est une femme qui n'a pas eu une vie très facile. Son premier mari était compositeur de musique et il a été abattu par des gangs dans les rues de Medellín quand il avait 40 ans. Et puis elle s'est remariée, elle a eu des enfants. Son deuxième mari est décédé récemment d'une maladie. Et elle-même, elle a des problèmes cardiaques, donc elle est surveillée médicalement de manière très régulière. Mais ce qui nous épate avec Ariadna, c'est qu'elle rayonne de gentillesse et de bonheur. Elle a toujours le sourire aux lèvres. Et c'est vrai que dans toutes les conversations qu'on a avec elle, moi, je ressens en tout cas une forme de sagesse et de philosophie qui me marque. Je discute beaucoup avec elle, je passe du temps. Et ça me permet aussi d'améliorer mon espagnol, mais de l'améliorer avec des conversations qui sont vraiment des conversations de cœur. Et ça, c'est vraiment nouveau pour moi. La ville de Rardin est très agréable aussi. Il y a une ambiance sereine. Le matin, quand on va chercher le pain, on voit les habitants qui sont sur le perron de leur porte en pyjama, qui vont chercher leur journal ou qui vont à la boulangerie. Et ils disent tous bonjour. Il y a une ambiance un peu cow-boy. Les hommes, ils ont tous des chapeaux de Far West. Et une douceur de vivre qui est très agréable et qu'on ressent. Il y a de la musique aussi, partout, tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui apporte énormément de gaieté au pays et qu'on retrouve partout où on va. Comme on est bien en confiance avec Ariadna, qu'on sait que les filles en ont un petit peu marre de nous aussi. Le deuxième soir avec Daniel, on les fait dîner et puis nous, on file en ville pour aller manger au restaurant tous les deux. Et quand on sort, il y a de l'ambiance parce qu'on découvre qu'il y a encore une autre compétition sportive, c'est la Coupe de Colombie, c'est un peu comme la Coupe de France, mais en football. Alors là, c'est l'effusion partout, à l'extérieur de tous les bars. Les gens, ils ont revêtu les maillots aux couleurs de l'équipe qu'ils soutiennent, donc ils sont en vert et blanc. Et ça papote, ça boit des bières, ça rigole. Et c'est tous les regards sont rivés vers les écrans de télé dans les bars. On assiste aux dernières minutes du match, on est vraiment emballé dans cette effusion collective, sauf que pas de bol, l'équipe favorite perd, et là d'un coup, tout le monde se disperse et s'en va. Et on a tout à coup le sentiment que tout peut basculer d'une minute à l'autre, que l'atmosphère peut vraiment se transformer du fait que l'équipe a perdu. Donc on fait un peu comme la majorité des gens. On se disperse et on rentre rapidement à la maison. Pour le dernier jour, on embarque à nouveau nos enfants dans une randonnée qui a été conseillée par Ariadna au départ de sa maison pour aller voir des cascades. Alors là, l'ambiance, elle est catastrophique. June, elle traîne des pieds. Et puis en plus, on voit passer à côté de nous des tuk-tuks parce qu'il y a des rickshaws là, qui emmènent des touristes locaux à différents points de vue sur la montagne. Et ça les énerve, les enfants, de voir qu'il y a des flemmards qui n'y vont pas à pied et qu'elles sont obligées de marcher. On arrive à la cascade en question. Bon, c'est pas extraordinaire. Il y a beaucoup de monde, il y a des chevaux aussi, hein, des gens qui se baladent à cheval. On regarde ce qui se passe et on voit descendre des gens en canyoning, donc ça nous amuse de les voir faire du rappel sous ces trombes d'eau. Et puis on entend parler français à nouveau et on voit des enfants. Et là, ça fait vraiment comme un aimant, en fait. Nous, on se sent attirés. Et moi, je me dis, il faut qu'on connecte avec eux. Ils ont des enfants. En plus, ils sont plus petits que les nôtres, de ce que je vois. Mais voilà, ce serait sympa si on connectait. Et puis, je sens aussi, moi, que j'ai cette forte envie de connecter avec des pères. Et là, évidemment, la connexion, elle se fait quasi instantanément avec Adèle, Jérôme et leurs enfants qui habitent en Maine-et-Loire et qui sont là avec leurs trois petits bouts et ils remontent l'Amérique du Sud en camping-car et ils en sont à la fin de leur voyage. Eux, ils rentrent dans environ 2 semaines en France et donc ils sont à peu près au même stade du voyage que nous Et ça nous fait nous rapprocher immédiatement. On décide de finir la boucle de randonnée tous ensemble. Alors nos enfants, là, elles ont complètement changé d'état d'esprit, hyper joyeuses. Les enfants des deux familles se racontent toutes leurs aventures. C'est vraiment d'un coup le grand déballage et grand enthousiasme aussi. On mange ensemble à un café qui a un beau point de vue. On redescend en ville et là, on se paye une averse, mais de l'espace, on rentre tout trempé. On se réfugie dans un café pour se prendre une boisson chaude et un goûter. Les enfants jouent à des jeux de société parce qu'il y en a dans ce restaurant. Et puis, on se promet de se retrouver à Rericho parce que c'est leur prochaine étape dans 2 jours. Nous, on part demain et on se dit que ça sera l'occasion de se croiser pour un dernier moment passé ensemble. Le trajet pour Rericho est cool. On met seulement 2 heures, mais c'est normal, c'est parce que c'est à côté. Et là, on découvre une petite ville qui est très, très sympathique. Notre logement est magnifique. C'est une maison typique colombienne avec tout l'extérieur en bois et de toutes les couleurs, du bleu, du rouge, du orangé, du jaune. À l'intérieur, c'est tout mignon et surtout, les lits sont super méga moelleux. On a un lave-linge aussi, ce qui est super pratique. Donc, on fait une lessive parce que ça aussi, c'est un sujet à chaque fois qu'on va quelque part d'essayer de trouver des solutions pour laver notre linge. Et on file en ville pour déjeuner et sur le retour, en fait, on n'a pas envie de grand-chose, juste d'observer ce qui se passe parce que c'est tellement joli, cette commune. Daniel se pose dans un café et moi, j'avais repéré des coiffeurs et ça faisait très longtemps qu'on n'était pas allé chez le coiffeur. Moi, j'y étais pas allée depuis qu'on était partis en voyage. Et June et Violette y étaient allées au Cambodge. Et donc, je repère un coiffeur, je dis aux enfants, avec une idée très arrêtée, on va se faire coiffer chez une femme, parce que je pense que les hommes, ils sont plutôt barbiers, ou ils coiffent des cheveux courts. Et donc, on rentre dans un salon, il y a une dame qui est de dos, et je dis « bonjour », et quand elle se retourne, elle me répond « bonjour ». Et en fait, je réalise qu'il s'agit d'une femme qui est transgenre, et là, ça me fait rire intérieurement parce que je me dis, tiens, ça c'est un petit rappel de l'univers pour te remémorer qu'il ne faut pas avoir d'idées préconçues. On a la bonne surprise de voir qu'il y a des bacs à eau pour pouvoir laver les cheveux, ce qui n'était pas le cas au Cambodge, où la dame avait pulvérisé un petit peu d'eau dans un pulvérisateur d'eau quoi, sur la tête des enfants. Donc là, il y a un bac. Moi, je suis la première à y passer. Mais en fait, la surprise, c'est qu'il n'y a pas d'eau chaude, évidemment. Et la coiffeuse me lave les cheveux avec une eau qui est gelée. Donc, je crie. Ça la fait beaucoup rire. Ça fait beaucoup rire les enfants. Et puis, au final, elle me coupe les pointes et ça se passe très bien. Je suis très contente du résultat. Et elle fait la même chose pour les enfants et elle nous propose même de nous sécher les cheveux avec un sèche-cheveux qui là fait de la chaleur. Et donc on est toutes les trois très contentes avec nos nouvelles têtes et à un prix complètement dérisoire. Je crois qu'en tout on a payé 10 euros pour les trois coupes. En rentrant avec Daniel, on s'attelle à la maison à programmer notre prochaine grande étape qui va être dans le Pacifique. C'est pour ça qu'on est venu en Colombie, pour aller surfer sur cette côte. Et là, très vite, on se casse les dents sur les vols. En fait, pour rejoindre le Pacifique, on sait qu'il faut qu'on prenne un avion de Medellín où on va rendre la voiture de location. Et ça, on le savait. Par contre, ce sont dans des petits coucous qui font jusqu'à 30 places. Et là, quand je regarde les horaires de vol des compagnies, et les places disponibles, je ne trouve aucune disponibilité sur les vols, très peu de vols, ou à des tarifs vraiment très élevés. Et là, c'est un peu la dégringolade, quoi. On se dit, mais c'est pas possible, comment on va faire pour rejoindre cette côte pacifique ? On a trouvé un hébergement qui a l'air génial, dans un village assez reculé, mais le logement est au bord de l'eau. Il y a possibilité d'accéder à une planche de surf. Le village a l'air super sympathique. Et alors, le comble, c'est que l'hôte est français. Et ça, on le découvre au fil des échanges. Donc, lui, il est prêt à nous bloquer la maison, qui est en plus disponible pendant 10 jours à nos dates. Mais on ne trouve pas de moyen de s'y rendre. Sauf que nous, on se dit, ça n'est pas possible. On est venu en Colombie, on a choisi la Colombie pour venir surfer sur la côte Pacifique. C'est juste pas concevable qu'on ne puisse pas y aller. C'est impossible. Donc il faut qu'on trouve une solution. Moi, je réfléchis à comment rejoindre ce village par bateau, parce qu'il y a un itinéraire qui est possible en embarquant sur un cargo pendant 24 heures. Mais pour ce faire, il faudrait qu'on reprenne un bus du nord de la Colombie vers le sud, puis un autre bus, ensuite un cargo pendant 24 heures, et ensuite un autre petit bateau, une lancha, ce qu'on appelle les bateaux locaux. En gros, on mettrait 4 jours à rejoindre le village, et on n'en profiterait que pendant 3 jours pour rentrer. Donc on se dit, c'est pas possible de se compliquer la vie comme ça. Daniel finit par dire, bon, j'envoie un message à notre potentiel hôte, Siméon, qui est français, et ce qu'il lui dit, c'est que, voilà, on est prêt à venir 10 jours chez lui, mais qu'on n'a pas de moyen de s'y rendre, est-ce que lui, il ne connaît pas une compagnie aérienne privée pour pouvoir s'y rendre, enfin, un autre moyen, en tout cas, de s'y rendre dans les prochains jours. Effectivement, il nous envoie un contact que Daniel sollicite par WhatsApp, et cette personne, en fait, travaille dans une compagnie de vol privée, et il propose un aller-retour dans une avionetta, donc un tout petit avion, pour le 30 juin. Donc c'était un jour plus tard que ce qu'on voulait partir, mais il n'y a pas de vol avant. Et il nous prévoit un aller-retour, ce qui va nous permettre de passer une dizaine de jours sur la côte Pacifique, comme on l'avait prévu. C'est un peu étrange parce qu'on valide tout par WhatsApp. Il nous demande quand même nos numéros de passeport, nos noms, nos prénoms, mais on ne paye rien. Il nous dit de prévoir du liquide pour l'arrivée sur place dans la zone Pacifique. Donc on se dit, bon, c'est un peu étrange, mais on décide de faire confiance à ce système et que ça va bien se passer. Entre-temps, on est allé faire une balade avec nos enfants en haut de la montagne, parce qu'en fait, c'est un parc national qui s'appelle le parc national des Nuebes, c'est des nuages. Et effectivement, ça vaut le coup parce qu'on arrive là-haut, on a vu sur ben, rien, la tête dans les nuages. Donc je vous dis pas la tête aussi des enfants quand ils découvrent tout ça. Et en redescendant, ça nous sauve une fois de plus parce que les enfants sont vraiment pas très contents d'être venus marcher. On tombe sur nos copains Adèle et Jérôme, donc qu'on a rencontrés à Rerico. Bon, ce sont des copains de très court terme, mais on est trop contents. Et on s'organise pour le soir de se retrouver pour un apéro sangria en ville et puis une soirée pizza à la maison. Et les enfants sont trop, trop contents. La fin de notre trip à Jardine se fait vraiment dans la joie parce qu'on a tous eu aussi ce moment très social avec d'autres. Et d'autres voyageurs français, donc très sympa. Les grandes sont contentes parce qu'on a pu aller leur acheter des shorts notamment. Mais c'est vrai qu'elles ont beaucoup grandi en une année. June, c'est impressionnant, elle a déjà pris au moins 12 cm. Donc là, il était temps de racheter quelques habits. Et puis, on a surtout l'occasion d'aller manger dans un restaurant qu'on découvre un après-midi proche de la maison et qui fait des desserts absolument incroyables. Daniel y déguste notamment un Irish coffee avec de la crème chantilly faite maison et de la glace à la vanille qui a tombé par terre. Et les enfants, un cheesecake et surtout une tarte à la noix de macadamia qui est excellente. Ça paraît bête, mais nous, ça nous transcende parce que des pâtisseries comme ça, on n'en a pas mangé depuis des mois. Et là, c'est un bonheur et on l'apprécie à chaque bouchée, ce qu'on ferait peut-être pas en temps normal quand on est chez nous en France.
C'est quoi, Daniel ?
Je bois un vin chaud.
Oui.
Un vin chaud qui sent
muy caliente. Una vino tinto caliente.
D'ailleurs, je vais prendre le sucre.
On conduit jusqu'à Medellin, on rend la voiture de location. Là, on prend deux taxis dont on sait qu'on se fait complètement arnaquer sur les tarifs. Mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même très abordable. Et puis, on pose nos sacs à l'hôtel avant de relaisser les filles pour gérer deux, trois petits détails pratiques. Déjà, on doit payer notre hôte. Ça se fait par un transfert bancaire. Et en fait, on a essayé de le faire en ligne, mais ça ne fonctionnait pas. Donc, on doit aller retirer de l'argent, le montant de la location, pour ensuite aller dans une banque et faire un virement d'espèces vers compte bancaire. Bon, bref, c'est toute une histoire. Donc, on se retrouve à retirer cet argent et à prendre un ticket à la banque et à attendre à peu près 1h30 avec tous les gens qui sont là pour procéder à ce transfert, mais qui se passe très rapide dès lors que c'est notre tour de passer, quoi. Là où on va aussi dans le Pacifique, forcément, il n'y aura pas de Wi-Fi, pas de moyen de retirer de l'argent et tous les paiements se font en cash. Donc, on doit retirer une grosse somme d'argent en liquide. Ce que l'on fait, donc on prend les billets avec nous, mais on les répartit un petit peu dans nos affaires. Et puis, on doit aussi trouver une solution de connexion. Pas de Wi-Fi, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une bonne connexion 4G et suffisamment d'unités. Et en fait, on va recharger notre carte SIM en unité téléphonique parce qu'on n'en aura pas assez pendant tout notre séjour et on ne veut pas prendre le risque de se retrouver coupé de la connexion complète. On sait qu'on va être loin de tout, mais c'est important qu'on puisse se sentir rassuré sur le fait qu'on peut joindre des personnes ou être contacté. Ce qu'on aperçoit de la ville en faisant toutes ces démarches, c'est que ça a l'air assez sympathique. Puis le quartier surtout où on est, il est festif, il y a beaucoup de restaurants, des bars, le soir la musique. On sent qu'il y a du potentiel, donc on est content de se dire qu'on prendra un peu plus de temps à notre retour du Pacifique pour visiter la ville de Medellín qui a l'air assez prometteuse. Le lendemain, on se lève à 4h30 pour rejoindre l'aéroport d'où on va partir pour s'envoler vers la côte Pacifique. C'est un petit aéroport qui fait que des vols nationaux. On fait notre enregistrement, alors c'est un petit peu particulier parce qu'il nous pèse intégralement chacun de nos bagages, y compris nos bagages à main, et il nous pèse nous. En fait, quand on va prendre une avioneta, un tout petit avion, 8 places, eh bien, il faut s'assurer qu'on ne dépasse pas le poids maximum dans l'avion. La zone dans laquelle on se rend, c'est une zone qui aussi a un fort risque de paludisme. Donc, il faut qu'on prenne une dernière fois le traitement. Nous, on a compté tous nos comprimés qui nous restaient. Et en fait, il y en a suffisamment pour les enfants, mais pas pour nous, les adultes. Donc, je trouve quand même une pharmacie dans ce petit aérodrome. Et ils vendent du traitement anti-palu. Donc, j'achète ça, mais franchement, comme si j'achetais un paquet de gâteaux. Et d'ailleurs, le pharmacien, ça me fait rire parce qu'il me dit, vous achetez une plaquette, il y a une plaquette offerte. On doit beaucoup patienter dans l'aéroport et puis ensuite dans la salle d'embarquement avant qu'on nous conduise à l'extérieur sur le tarmac. Et puis là, à nouveau, il faut qu'on s'asseye sur une marche. On ne sait pas trop, ça prend beaucoup de temps et on n'a pas les horaires exacts. Il n'y a pas d'horaire. On a compris qu'on était un petit peu à la merci des allers-retours de cette compagnie privée entre l'aéroport de Medellín et l'aéroport de Nuquí à l'ouest du pays. Et on attend avec deux autres personnes. Et puis finalement, on nous invite à nous rapprocher de l'avion. Et là, moi, je vois l'avion. Franchement, j'ai déjà l'angoisse qui monte. C'est un avion qui est tout petit, un avion à hélice. Et on se demande même comment on va pouvoir grimper dedans, quoi. Il y a une espèce de trappe sur le côté pour monter. Ils mettent un petit escabeau. Voilà, moi, je ne suis pas très, très rassurée. On ne peut pas rentrer tout de suite dans l'avion, on se met sur le côté parce qu'en fait, il y a une brigade anti-drogue qui arrive et qui vient faire le contrôle des bagages avec des chiens. Donc, c'est une brigade canine. Ils font le tour et puis il y a un chien qui s'attarde énormément sur le sac de Daniel. Donc, finalement, il demande à ce que Daniel vienne. Il commence à ouvrir le sac, il commence à le vider. Et puis, il questionne Daniel, il lui demande s'il n'a pas de la drogue dans son sac. Il le demande même discrètement, au cas où nous, on ne le saurait pas, enfin, que je ne le saurais pas. Et puis finalement, Daniel dit non, mais vraiment, j'ai rien. Le chien refait le tour du sac après que ça soit tout vidé. Et évidemment, il laisse tomber. Donc, on peut repaquer le sac. D'ailleurs, les policiers s'excusent 10 fois auprès de Daniel qui dit non, mais il n'y a pas de problème, vous faisiez votre travail. C'est sûr que le sujet des sacs en Colombie, on y fait assez attention. C'est-à-dire où qu'on soit, on est toujours autour et on s'assure qu'il n'y ait personne qui puisse s'approcher trop près. Bon, à la fois parce qu'on fait attention, on est prudent par rapport au vol, mais aussi pour ces histoires de choses qu'on peut nous glisser dans le sac. Bref, on monte tous dans l'avion. Alors c'est amusant parce qu'au fond de l'avion, ils ont chargé du carrelage et on comprend en fait que ces compagnies privées, elles servent à transporter des passagers mais aussi des marchandises pour des chantiers, des rénovations de maisons ou autres sur place. Et puis nous voilà partis. Alors c'est vrai que c'est très surprenant, c'est très bruyant. L'atmosphère dans cet avion, parce qu'on entend tout, on est au cœur, on est à côté du moteur, quoi, et des hélices, donc c'est très très bruyant. Et surtout, ce qui est assez effrayant pour moi, c'est qu'on sent tous les mouvements d'air. Donc en fait, il n'y a pas besoin qu'il y ait des turbulences, mais toutes les masses d'air, on les sent, et l'avion, il ne fait que bouger. Et j'avoue que la première demi-heure, j'ai le ventre très serré, et j'ai du mal à me relaxer et à regarder le paysage. Je sens que Violette et June sont dans le même état que moi. Bon, je crois qu'elles tiennent un peu de moi sur ce genre de choses, tandis que Daniel et Swan trouvent ça génial, ils regardent par la fenêtre. Puis c'est vrai que passer ce temps de découverte de ce mode de pilotage, là on peut regarder dehors et la vue elle est extraordinaire. On est dans l'air, mais pas si haut, donc on survole une végétation qui est magnifique et on la voit assez bien, les reliefs sont sublimes. Et c'est vrai que quand on voit l'océan qui se profile à l'horizon et qu'on sent qu'on va atterrir, ouah, c'est magique. Et puis c'est le soulagement aussi. Moi j'avoue que je n'attends qu'une chose, c'est qu'on puisse atterrir avec ce petit coucou. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Un petit tour et puis changeons. Ça vous a plu ? Venez écouter l'épisode 35 sur le début de notre immersion dans le Choco, dans la Colombie-Pacifique. À bientôt !